Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Lee Wong-nok, maître de conférence à l'Université de Paris 1
et délégué national à l'économie au Parti Socialiste. Justement, aujourd'hui, on est là pour parler du Parti Socialiste. Alors, le Parti Socialiste et le libre-échange ou le protectionnisme, ça dépend quel angle on envisage. On n'en entend pas beaucoup parler d'une remise en cause du libre-échange ou d'une proposition de protectionnisme par le PS. Pourquoi ?
Ah, on en a entendu parler. Il y a eu un débat interne au moment du référendum sur la Constitution européenne où... C'était à peu près moitié-moitié quand même, hein. Moment où les partisans du non ont attiré l'attention sur les dangers d'un libre-échange incontrôlé, notamment à travers le phénomène des délocalisations. Ce thème a été également abordé dans les débats de congrès. Après la victoire du non au référendum, l'ensemble des socialiste a choisi de se rassembler plutôt que de se diviser. Et cette division aurait par exemple abouti à deux candidatures socialistes, ce qui aurait encore ajouté de la division à la division. Et j'ai plutôt le sentiment qu'on n'en a pas besoin de cette division à l'heure actuelle, où le camp d'en face fait quand même bloc derrière un candidat néoconservateur qui risque de gagner, a fortiori en cas de division. Bon, donc on a choisi de se rassembler et on n'a pas pour autant évacué ce thème, puisque si vous prenez le projet qui est le socle de ce rassemblement, est inclus dans ce projet l'idée d'un tarif extérieur commun, c'est-à-dire d'un tarif douanier à l'échelle européenne, qui doit nous permettre de ralentir le mouvement des délocalisations, puisque les délocalisations, c'est un aller-retour, consistant à aller exploiter les travailleurs chinois ou indiens dont les salaires sont 25 fois plus bas que les nôtres, et de réimporter les biens fabriqués là-bas en bénéficiant de surcroît d'une monnaie sous-évaluée, puisque les monnaies asiatiques sont arrimées au dollar qui, on le sait, est sous-évalué, et bénéficiant de ce double avantage compétitif, ces marchandises produites de façon délocalisée pénètrent naturellement, comme dans du beurre, le marché européen. Donc ici, le tarif extérieur a pour but de ralentir ce mouvement en considérant que désormais, les transferts technologiques et financiers sont massifs en direction de ces pays. C'est absolument pas xénophobe comme démarche ici. On considère que les Chinois aujourd'hui bénéficient de transferts financiers. Il y a une bourse, on le voit, sur laquelle tout le monde a l'œil rivé, d'ailleurs, dans le monde entier. Les Chinois bénéficient également de transferts technologiques. Ils fabriquent des ordinateurs, ils fabriquent du high-tech aujourd'hui, et pas seulement des parasols et du textile. Et donc, si l'on veut égaliser les conditions de la concurrence à l'échelle mondiale et lutter, comme tout le monde le souhaite dans les discours contre le dumping social, eh bien ce tarif extérieur commun se justifie. Et d'ailleurs, les plus libéraux d'entre les libéraux ont conscience du problème. C'est quand même quelqu'un de démocratie libérale. Je veux parler de l'entourage de Jean-Pierre Raffarin, qui a relancé ce débat dans les colonnes du Monde. Un conseiller de Jean-Pierre Raffarin, qui récemment a lancé l'idée d'un protectionnisme européen provoquant la levée de boucliers de tous les bien-pensants et tous les experts sociaux-libéraux de la pensée unique.
Et pourquoi, dans la campagne, cette thématique n'est-elle pas mise en avant, alors que je pense qu'elle pourrait être entendue par les Français, justement ?
Ah bah, qu'il dites-vous, c'est comme les impôts. Vous savez que la question fiscale... Et paraît-il tabou, François Hollande l'a mis sur le tapis, mais là, de la même façon, il y a un tabou sur le protectionnisme. Parce que pendant 20 ans, beaucoup d'experts, dits de gauche parfois, ont expliqué dans les clubs de réflexion, dans les tribunes de journaux, que la mondialisation était heureuse, qu'elle pouvait être régulée, et que le protectionnisme serait un choix conservateur. De la même façon, pendant des années, on a expliqué que... on ne gagnerait pas une élection sans baisser les impôts. Bon, et tout ça reste dans l'inconscient du militant moyen. Certains pensent encore aujourd'hui qu'on peut pas augmenter le SMIC. Moi, j'ai parfois des discussions sévères dans la commission économique avec certains des experts, de mes collègues économistes. Hein, je vous parle pas des dirigeants du parti, là, hein. Je vous parle des experts, hein, qu'on s'entende bien, des experts qui n'ont pas toujours leur carte, qui viennent nous expliquer qu'il y a un problème de coût du travail dans ce pays, qu'il y a un problème de concurrence fiscale. Écoutez, tant que la bataille idéologique reste à mener chez les intellectuels, il faudra la mener et ne pas s'étonner que un certain lobbying a été effectué qui reste encore vivace dans l'inconscient collectif. Moi, j'observe sur le terrain qu'il y a plein de salariés qui nous regardent avec des gros yeux quand nous faisons la proposition d'un SMIC à 1 500 € et qui ont intériorisé l'idée que si on met un SMIC à 1 500 € aujourd'hui, il y aura des délocalisations. Donc tant qu'on n'explique pas que pour préserver notre modèle social face à la concurrence déloyale qui est pratiquée par ailleurs, il faut se protéger. Tant qu'on n'a pas installé ça dans les têtes, on va avoir un problème pour pouvoir appliquer notre programme.
Des souhaits des hommes sur Aligre FM m'ont toujours donc en compagnie de Limon Gnoc. En réalité, j'étais en plein d'interrogations pendant le temps de la musique, parce que je me disais, c'est quand même pas l'image que j'ai des socialistes, cette idée de tarif extérieur commun, de volonté effectivement de mettre des formes de protectionnisme. Alors, j'ai notamment cette image-là, parce que je pense à Pascal Lamy, qui au niveau de l'OMC ne tient pas forcément des discours qui laissent à penser qu'il est opposé au libre-échange.
Il y a plusieurs catégories de socialistes. Hein. C'est absolument pas contradictoire d'être socialiste et libéral. D'ailleurs, Léon Valras, un des fondateurs de la pensée néoclassique libérale, était socialiste. Hein. Alors que Keynes, un des pères fondateurs de la pensée interventionniste moderne, était anti-travailliste au possible. Il était membre du parti libéral-démocrate, le parti centriste britannique. Donc, c'est pas forcément le critère de démarcation. Les travaillistes britanniques, dans les années 80, ont défendu le protectionnisme. Hein. Vous aviez un économiste post-keynésien, malheureusement décédé depuis, qui s'appelle Nicolas Kaldor, qui ferraillait contre Milton Friedman à l'époque sur cette question, comme sur d'autres. Mais lui militait en faveur du maintien d'un modèle social britannique avec un État important, des accords collectifs et des augmentations de salaire. Mesure qui, selon lui, dans le contexte de l'époque, n'était possible que si l'on protégeait l'industrie face à la concurrence étrangère. Et il le justifiait en disant qu'il y a deux solutions. Soit vous prenez la voie néoconservatrice prônée par Friedman et Thatcher, et dans ce cas-là, vous allez mener une politique qui, contrairement à ce que pensent les néolibéraux, va plomber complètement l'industrie. Soit on préserve un modèle où il y a une forte dose de politique industrielle. Et la Grande-Bretagne avait une politique industrielle à une certaine époque, moins puissante que la nôtre, mais elle en avait quand même, elle avait un fort secteur public. Et dans ce cas-là, le taux de croissance de l'économie britannique serait plus important que si l'on appliquait les recettes néolibérales. Et d'ailleurs, les recettes néolibérales, contrairement à ce que l'on pense, furent abandonnées au Royaume-Uni depuis, à partir de 1985, où le Royaume-Uni est devenu extrêmement keynésien. les taux d'intérêt baissent fréquemment, les dévaluations de la livre ont pu servir à stimuler la croissance, le déficit budgétaire a été utilisé, et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne n'est toujours pas dans l'euro et peut se permettre d'utiliser ses marges de manœuvre tout en bénéficiant de l'ouverture des marchés européens. Bon, mais pour revenir à Pascal Lamy, oui, c'est un partisan du libre-échangisme, mais il est quand même pas, intégriste, si vous voulez. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque à ses yeux le développement du libre-échangisme à l'OMC? Bah, c'est le fait que les États-Unis, contrairement à ce que l'on pense, sont interventionnistes. Ils subventionnent leurs exportations. Et ils appliquent des tarifs douaniers. Donc dans ces conditions, il y a un certain statu quo et l'ouverture du commerce, notamment en direction des pays du Sud, se fait de façon déloyale pour les pays du Sud. Et donc Pascal Lamy n'est pas intégriste et n'y pousse pas dans ces conditions. Bon, c'est quand même des gens réalistes. Bon, mais effectivement, il y a un débat entre ceux qui pensent que la mondialisation libérale peut être une mondialisation heureuse, et ceux qui pensent que bon, aujourd'hui nous ne sommes plus du temps de Ricardo, et que cette mondialisation-là, contrairement à ce que l'on pense, produit des effets économiques et sociaux négatifs.
Mais mondialisation heureuse, hein, oui, effectivement, certains socialistes semblent, mais je vois pas comment intellectuellement c'est. Quelle justification ils trouvent à ça, quoi. Je vois pas quel est leur raisonnement.
Le raisonnement traditionnel, c'est la fameuse théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui est vieille de deux siècles, qui consiste à dire chaque pays va se spécialiser dans la production où il a la meilleure productivité dans son pays par rapport aux autres productions qui seraient susceptibles de réaliser. Donc il va se spécialiser et dans l'échange, chacun va y gagner parce que le revenu auquel chaque pays peut accéder par l'échange sera supérieur que au revenu qu'il obtiendrait s'il produisait lui-même tous les biens. Bon, c'est la vieille théorie de l'avantage comparatif. La différence, enfin le problème, c'est que cette théorie s'appliquait lorsque le capital était immobile et que on estimait que l'Europe fabriquerait des ordinateurs, grosso modo, et que les machines pour fabriquer les ordinateurs ne déménageraient pas d'Europe, et que les Chinois fabriquaient des parasols avec des machines fabriquant des parasols qui resteraient en Chine et qui n'iraient pas ailleurs. Bon, mais depuis, avec la mondialisation du capital, le capital est devenu mobile, et donc tout le monde aujourd'hui fabrique des parasols et des ordinateurs, et dans ces conditions, la théorie des avantages comparatifs ne peut plus fonctionner, puisque les Chinois vont bénéficier des mêmes avantages techniques que l'Europe, mais avec des coûts de production beaucoup plus faibles, et du coup, il est naturel que le mouvement des délocalisations soit amené à s'accélérer si l'on ne met pas en place les coopérations à l'échelle internationale, et en attendant que ces coopérations, pour faire converger vers le haut les normes sociales, eh bien des barrières pour empêcher la concurrence déloyale et inciter les Chinois à développer leur marché intérieur, parce que quand même, et je suis bien placé pour le dire quand même, les auditeurs ne me voient pas, mais mon nom a priori ne m'incite pas à jouer contre l'Asie, mais l'Asie dispose d'un énorme marché intérieur et d'un énorme potentiel de développement interne et autonome.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Limo Gnoc sur Alire FM. Tout à l'heure, vous avez dit que les socialistes préconisaient l'idée d'un tarif extérieur commun à l'échelle européenne. Et moi, c'est toujours ma petite question rituelle. Ouais, d'accord, mais avec qui, au niveau de l'Europe, qui serait d'accord pour le faire?
Alors, l'Europe est enlisée depuis, non pas ce que l'on pense, c'est-à-dire le non, mais bien avant, depuis l'élargissement. On a choisi de faire l'élargissement avant de faire l'approfondissement, c'est-à-dire avant de créer des institutions politiques sur lesquelles le noyau dur de l'Europe, les 15, ou mieux les 12, puisque dans les 15, il y en a 3 qui sont pas dans l'euro. Si on avait vraiment fait un noyau dur, on prenait les 12 de l'euro, on mettait en commun des règles politiques, un projet constitutionnel obtenant l'adhésion de tous les citoyens, et sur cette base-là, on demandait à ceux qui souhaitaient d'adhérer à ce projet solide, avec des règles aux frontières, etc., et bien de venir s'y associer. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait élargissement avant, et après on a essayé de scotcher une constitution dessus, une constitution qui n'a satisfait personne. Et pour cause, puisque si vous faites l'élargissement, vous avez des pays avec des niveaux de développement tellement différents que le premier problème qui se trouve posé, c'est de les faire converger vers le niveau de développement des pays de l'Ouest, si j'ose parler comme avant. Et vous avez deux solutions pour ça. Il y a deux projets pour ça. Vous avez le projet libéral qui consiste à dire « Ok, on fait un grand marché avec une concurrence libre et non faussée pour que, eh bien, sur la base des mécanismes concurrentiels, la convergence s'opère. » Et ça, ça suppose que, eh bien, les pays les moins performants puissent disposer d'une flexibilité de leur législation sociale, de leur fiscalité, de leur marché du travail, etc., pour converger vers le haut. Mais pour que le mécanisme concurrentiel fonctionne, naturellement, il faut que la concurrence soit libre et non faussée, et donc il ne faut pas que l'on puisse fausser la concurrence par des subventions publiques, par des règles qui contraindraient le libre-échange à l'intérieur de la zone communautaire, etc. Et puis, l'autre projet qui aurait permis de faire converger les pays vers le haut, bah, c'est un projet interventionniste qui aurait consisté à harmoniser les normes sociales et fiscales vers le haut. Mais pour que ça soit rendu possible, il fallait financer l'élargissement, tout comme l'Allemagne a financé sa réunification, pour que les régions en retard convergent vers les régions les plus en avance. Ça supposait, comme en Allemagne à l'époque, un budget communautaire à l'échelle de l'Europe, un budget suffisamment conséquent, avec des sources de financement, par exemple par l'emprunt, pour lever les sommes nécessaires à faire converger les pays de l'Est vers le haut. La Grande-Bretagne s'est montrée opposée à ce projet, a défendu le projet plutôt libéral, avec précisément non-harmonisation de la fiscalité. Tony Blair est intervenu pour enlever du projet de traité constitutionnel l'article qui proposait d'harmoniser la fiscalité. Les Britanniques également tenaient à leur rabais, à la ristourne, et ont tout fait pour que le budget communautaire ne soit pas accru. Et par conséquent, sans budget communautaire et sans harmonisation fiscale, il est évident que l'Europe ne puisse s'engager que vers une Europe avec des mécanismes néolibéraux d'ajustement, avec les méfaits sociaux que l'on connaît, montée des inégalités, etc., sans pour autant que l'efficacité économique, on n'aura pas le temps d'en parler, soit forcément assurée.
Oui, mais d'un certain côté, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Du coup, c'est possible comment ? Parce que c'est quand même une proposition. Ah,
j'ai répondu indirectement. Moi, je pense que on aurait dû prendre la perche tendue par Joschka Fischer lorsque il avait, avant l'élargissement, tendu la perche de la création d'un noyau dur, France, Italie, Allemagne, enfin les 12, quoi, autour d'un projet de constitution. Et donc, tant que le noyau dur de l'euro ne sera pas mis d'accord sur des règles économiques claires pour savoir comment on finance cette Europe économique et sociale, bon, bah, l'Europe restera un grand marché.
On a le droit actuellement de faire des noyaux durs ? On a le droit de s'allier à quelques-uns dans l'Europe ?
Bah, j'observe qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont réunis il n'y a pas longtemps sans nous demander notre avis. Ceux qui ont voté, oui. Bon, en matière de politique, tout se fait. C'est comme en cuisine. Je crois que Lénine disait que les lois sont l'expression d'un rapport de force. Donc, la France a la présidence en 2009. Pas trop tard pour remettre sur l'établi les termes du débat. Parce que moi, je ne vois pas comment cette Europe-là, sans budget, sans harmonisation sociale, peut fonctionner. Parce que quand vous avez une monnaie unique qui fait que les pays en difficulté ne peuvent plus dévaluer pour ajuster les déséquilibres, quand vous n'avez pas de budget pour financer le rattrapage, le seul instrument qu'ils ont, c'est le dumping social et fiscal. Avec les effets que l'on connaît en termes de délocalisation, avec des effets sociaux que l'on connaît avec la montée de la xénophobie, parce que cela va revenir à opposer les travailleurs les uns aux autres. Et moi, je peux vous parier que dans ces conditions, dans moins de 10 ans, l'Europe économique, et encore plus l'Europe sociale, est vouée à une perte quasi inéluctable, avec le fait que le retour aux monnaies nationales sera pris en charge par des forces populistes. Et alors là, à ce moment-là, si on n'a pas préparé le débat auparavant, ça risque de s'avérer explosif.
Oui, c'était des sous et des hommes en compagnie de Limo Hongnok, qui a écrit, je vous le rappelle, un petit livre qui s'appelle « Vive l'impôt ». C'est aux éditions Grasset. C'est pas mal vivifiant pour l'esprit, même si c'est parfois un petit peu compliqué. En tous les cas, la semaine prochaine, à moins qu'il y ait une divine surprise avec un invité mystère, on devrait retrouver Frédéric Lordon qui va nous parler de... Ça y est, je vais avoir perdu le terme, mais enfin, en tous les cas, l'idée, c'est de déplacement des capitaux de par le monde. Voilà, à la semaine prochaine.